Vous écoutez France Culture. France Culture, bienvenue à vous si vous nous rejoignez maintenant, il est midi et demi. Tout de suite, c'est le journal de Benoît Bouscarel. Bonjour Benoît.
Bonjour à toutes et à tous. Peut-on théoriser l'existence de deux droites irréconciliables en France au lendemain de l'annonce aussi sèche que laconique du limogeage de Virginie Calmels par Laurent Wauquiez ? Les Républicains se retrouvent une nouvelle fois coupés en deux. La droite se rétrécit, estime ce matin Valérie Pécresse. Nous allons faire le tour des réactions, essayer de comprendre ce qui va changer ou ne pas changer au parti Les Républicains à la suite de ce limogeage. Reportage à suivre d'Anne Fauquemberg, analyse de Stéphane Robert. En Allemagne, Angela Merkel sous la pression de son allié bavarois de la CSU qui pourrait décidé dans la journée de changer de point de vue sur les questions migratoires. La crise politique qui vient pourrait-elle déboucher sur un affaiblissement de la chancelière ? On voit ça avec Cyril Sauvageau. Le bac, les premières épreuves aujourd'hui avec la philo ce matin pour les filières générales et technologiques et le français cet après-midi pour les filières pro. Nous serons dans ce journal avec Adèle Van Rett, productrice des chemins de la philosophie sur France Culture. Elle corrigera avec nous en quelque sorte cette épreuve de philosophie. Et puis notre invitée, Marie-Caroline Missière, directrice de la rédaction du magazine L'Étudiant. Dans la deuxième partie de la grande table, Olivia.
À trois jours de la fête de la musique, l'événement qui l'a créé, nous recevons Jack Lang pour parler démocratisation culturelle, mais aussi réforme de l'audiovisuel. Il est actuellement président de l'Institut du Monde Arabe et il sera avec nous à partir de 12h55.
On parlera philo aussi un peu avec
lui. Un petit peu.
À tout à l'heure. Les Républicains feront-ils bloc derrière leur président Laurent Wauquiez et derrière sa ligne politique droitière très affirmée, encore un peu plus affirmée depuis hier soir? Ceux dont les visions sont plus centristes peuvent-ils continuer à coexister au sein de ce parti au lendemain du limogeage de Virginie Calmels, désormais ex numéro 2 du parti, pour insubordination? La question de la ligne politique du parti de la droite de gouvernement, le principal parti d'opposition en France, est de nouveau posée. Bonjour Anne Fauquemberg.
Bonjour.
Vous étiez ce matin en compagnie de Valérie Pécresse qui présentait ses propositions pour l'avenir de l'Europe et vous avez pu mesurer à cette occasion, auprès de la présidente de la région Île-de-France et de ses soutiens, l'ampleur des secousses provoquées chez les Républicains par la décision de Laurent Wauquiez.
Oui, elle ne veut pas entrer dans la polémique des personnes, mais elle se dit inquiète, Valérie Pécresse. 6 mois que la présidente de la région Île-de-France alerte sur ce qu'elle appelle le rétrécissement de la droite française avec la ligne Wauquiez, cette ligne d'une droite dure qu'elle juge avec sévérité.
C'est un danger, c'est une menace pour la droite française et ce danger, cette menace, ils existent depuis 6 mois. Mon objectif dans Libre, notre objectif dans Libre, parce que vous le savez, nous sommes une équipe, c'est justement d'élargir la droite, et de l'élargir par les idées et par les propositions. Nous avons une élection européenne dans un an, c'est une élection qui est cruciale pour notre pays. On a la montée des populismes en Europe avec un sentiment anti-européen très fort. Donc nous, c'est sur les idées que vous nous trouverez pour élargir la droite et rassembler les deux droites.
Voilà, élargir la droite, elle prend de l'étoffe, Valérie Pécresse, avec son mouvement Libre, mouvement associé à LR, tout en restant à l'intérieur. La présidente de l'Île-de-France joue la carte de l'extérieur. Dimanche prochain, par exemple, aura lieu un séminaire de travail à destination de ses élus qui la relaient dans les départements. Alors de là à dire qu'elle représente une menace pour Laurent Wauquiez, c'est un peu tôt. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'elle savourait ce matin un certain rapport de force, Valérie Pécresse, dans une volonté de rééquilibrer la ligne du parti avec des idées plus gaullistes qu'identitaires. Et cela 15 jours avant le Conseil national LR de Menton sur les européennes.
Merci Anne Fauquemberg. La droite ne peut pas se permettre des divisions comme elle a connu par le passé. Réaction ce matin au limogeage de Virginie Calmels par Damien Abad, vice-président du parti. C'est la refondation qui est en jeu selon lui. Mais si une grande partie des ténors de LR semble faire corps derrière Laurent Wauquiez, difficile de faire quand même ce matin comme si les vieux démons de la droite de gouvernement n'étaient pas encore bien présents. Bonjour Stéphane Robert.
Oui, bonjour.
Est-ce qu'on a ce matin des nouvelles de deux droites irréconciliables
au sein de ce qu'on a appelle la droite de gouvernement, il y a toujours eu deux droites qui avaient du mal à s'entendre. D'un côté, la droite orléaniste, libérale et europhile. De l'autre, la droite bonapartiste, plus conservatrice et plus eurosceptique. Et si on regarde dans le rétroviseur ce qui s'est passé ces 20-25 dernières années, on voit que ces deux droites se sont affrontées au moment de la présidentielle de 95 avec Jacques Chirac et Édouard Balladur, qu'elles se sont rassemblées en 2002, face à la menace que représentait l'extrême droite, menace qui s'est concrétisée par l'accession de Jean-Marie Le Pen au second tour de l'élection présidentielle. Et puis est intervenu un phénomène qui a conduit à l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron et qui concerne pour le coup à la fois la droite et la gauche. phénomène qu'on peut caractériser par une crise de confiance et un délitement, une désagrégation des partis politiques comme élément structurant de la vie politique française. Ces partis étant devenus uniquement des machines à sélectionner des candidats qui ne produisaient plus rien sur le plan idéologique et en termes de projet d'organisation de la société. Résultat, on a vu l'émergence de personnalités qui ont pris la tête de formations créées ex nihilo, Jean-Luc Mélenchon avec la France Insoumise, Emmanuel Macron avec En Marche, et du côté des partis, un PS qui n'existe plus qu'à l'état embryonnaire et des Républicains qui se rétrécissent comme peau de chagrin. Et dans cette vaste réorganisation en cours, on a, pour ce qui concerne LR, un Laurent Wauquiez qui résonne de façon stratégique et qui emprunte le seul créneau à droite susceptible de lui faire gagner des électeurs, celui d'une droite eurosceptique, identitaire, qu'incarnaient jusqu'ici le Front National et Marine Le Pen, ce qui évidemment ne convient pas du tout aux tenants de la droite centriste qui au fil des mois prennent leur distance les uns après les autres. En cela, Wauquiez instaure une concurrence directe avec le FN, devenu depuis peu le Rassemblement National, cherchant ainsi à récupérer à droite le leadership de l'opposition à Emmanuel Macron, comme essaie de le faire à gauche Jean-Luc Mélenchon.
Merci beaucoup Stéphane Robert. L'actualité en France, c'est le début des épreuves du bac ce matin avec le coup d'envoi de la philosophie pour les filières générales et technologiques. L'épreuve est maintenant terminée. Exemple de sujet, la culture nous rend-elle plus humains? Le désir est-il la marque de notre imperfection? Ça c'était pour les filières littéraires. Nous en parlerons en fin de journal avec Adèle Vendrette, productrice des Chemins de la philosophie. Pour l'instant, pas d'incident signalé pour les futurs bacheliers en rapport avec la grève des trains que la CGT et Sud avaient décidé de maintenir ce matin. Ce matin également, cette évaluation fournie par Frédéric Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, elle estime à plus de 5 millions d'euros la facture des dégâts commis lors des blocages au printemps de plusieurs facultés lors du mouvement de contestation contre la loi Or. Les 630 réfugiés de l'Aquarius arrivés hier à Valence en Espagne commencent en ce début de semaine leur long parcours administratif auprès des autorités européennes qui, elles, en retour, se questionnent sur les aménagements à apporter aux politiques d'accueil des migrants. Et à la veille d'une rencontre entre Angela Merkel et Emmanuel Macron à Berlin demain, c'est l'axe franco-allemand qui est questionné dans un contexte pourtant très délicat pour la chancelière. Bonjour Cyril Sauvageau.
Bonjour.
Notre correspondant permanent en direct de Berlin. Aujourd'hui, l'aile droite de la coalition gouvernementale allemande a fixé un ultimatum à Angela Merkel pour peut-être obtenir la fermeture des frontières aux migrants. D'après la une ce matin du quotidien Bild, c'est la journée où le destin d'Angela Merkel et celui du gouvernement se décident. Rien que ça.
Et oui, on devrait en savoir un peu plus d'ici une heure à peine. Le ministre allemand de l'Intérieur peut décider aujourd'hui d'aller à la confrontation avec Angela Merkel. Le bavarois Horst Seehofer, patron de la CSU, allié historique de la chancelière, réclame un nouveau tour de vis sur l'immigration. Il veut pouvoir refouler à la frontière allemande les migrants déjà enregistrés dans un autre pays européen. Ce serait un tournant radical, évidemment, dans la politique migratoire de l'Allemagne. Ce serait surtout un passage en force inacceptable pour Angela Merkel puisque la décision n'a pas été approuvée par le gouvernement. C'est une épreuve majeure pour la chancelière qui se retrouve donc à nouveau attaquée dans son camp sur la question migratoire, mais qui peut malgré tout compter sur le soutien de son propre parti, la CDU, le parti chrétien-démocrate qui fait bloc pour l'instant derrière sa dirigeante.
Et alors Cyril, que se passe-t-il si jamais la CSU suit son idée, arrive à ses fins?
Et bien dans ce cas, Angela Merkel n'aura pas d'autre choix que de se séparer de son ministre de l'Intérieur. Ça voudrait dire que la CSU se retirerait de la Grande Coalition, une rupture historique dans la famille conservatrice. Ce serait une première depuis l'après-guerre. L'Allemagne plongerait dans la crise puisque la chancelière n'aurait plus de majorité au Bundestag, 3 mois seulement après avoir péniblement réussi à bâtir un gouvernement. Mais on n'en est pas là. Pour éviter ce scénario, les deux partis, CDU et CSU, ont multiplié les pourparlers en coulisses tout le week-end et les derniers éléments en provenance des états-majors laissent plutôt espérer une trêve. Pendant les 2 prochaines semaines, jusqu'au Conseil européen des 28-29 juin, Angela Merkel disposerait donc d'un délai, en quelque sorte, pour parvenir à un accord, encore très hypothétique, avec les autres pays européens.
Merci Cyril Sauvageau, correspondant de France Culture à Berlin. Aux États-Unis, toujours au sujet des politiques migratoires, ce chiffre terrifiant qui prouve la détermination de l'administration Trump et qui est très commenté depuis vendredi soir. Depuis mi-avril, 2000 enfants de migrants ont été séparés de leurs parents à la frontière avec le Mexique. C'est l'effet de la nouvelle politique de tolérance zéro annoncée et totalement assumée par Donald Trump. Bonjour Marie-Pierre Véro.
Bonjour.
Cette politique de dissuasion, visiblement, elle est beaucoup moins assumée par certaines figures républicaines importantes et ce matin, elle est également dénoncée par l'ONU.
Oui, une politique que certains dénoncent comme une politique d'humanité zéro. Une politique en tout cas inadmissible et cruelle pour le haut commissaire aux droits de l'homme de l'ONU qui ne comprend pas qu'un État puisse chercher à dissuader des parents en infligeant de tels abus à leurs enfants. L'ONU appelle les États-Unis à cesser immédiatement ces séparations forcées et demande aussi à Washington de ratifier enfin la Convention sur les droits des enfants. Les États-Unis sont le seul pays à ne pas l'avoir fait. Vous le disiez, ces séparations forcées de quelques 2000 enfants de leurs parents en 6 semaines suscitent plus qu'un malaise dans les rangs républicains. Des bébés, des tout-petits enfants arrachés à leurs parents, enfermés dans des centres dont les capacités d'accueil commencent à être saturées. Le projet dirigé pour les retenir des tentes dans le désert du Texas où il fait 40 degrés. L'ancienne première dame, Laura Bush, a pris la plume dans le Washington Post ce week-end pour condamner ces séparations qui lui rappellent, dit-elle, les camps d'internement de citoyens nippo-américains lors de la Seconde Guerre mondiale. Melania Trump, la première dame, s'est elle aussi émue de ces séparations forcées. Notre pays doit respecter les lois, mais il doit aussi gouverner avec cœur, dit-elle. Et pour y mettre un terme, elle engage désormais démocrates et républicains à avancer vite sur une loi pour combattre l'immigration illégale. C'est une façon, en fait, d'appuyer son époux, Donald Trump, qui multiplie les tweets rageurs dans lesquels il accuse les démocrates d'avoir provoqué cette situation. Or, les séparations des familles ne sont en rien le fait des démocrates. C'est la décision du ministre américain de la Justice, Jeff Sessions, le mois dernier, d'arrêter tous les migrants, qu'ils soient accompagnés ou non d'enfants. Jeff Sessions a même cité la Bible pour défendre sa politique de séparation. Il semble plutôt que l'épisode ait été organisé par la Maison Blanche pour forcer à l'adoption de nouvelles lois sur l'immigration au Congrès, notamment celle qui prévoit une enveloppe de plusieurs milliards de dollars pour financer un mur à la frontière avec le Mexique.
Merci beaucoup Marie-Pierre Véro. Autre sujet du moment pour le haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme qui ouvrait ce matin une session de son conseil à Genève, la situation au Nicaragua qui pourrait bien mérité la création d'une enquête internationale d'après Zedra Al-Hussein. Vous aurez noté que cette enquête ne sera pas donc ouverte pour l'instant. À la suite des répressions, des manifestations contre l'insécurité sociale, on estime à 178 le nombre de tués dans le pays et à 1500 celui des blessés. En Colombie, victoire de la droite conservatrice aux élections présidentielles hier avec 54% des suffrages au deuxième tour. C'est Iván Duque, dauphin de l'ancien président Uribe, qui prend le pouvoir et qui, à compter de sa prise de fonction le 7 août prochain, va présider aux destinées d'un pays déchiré à propos des accords de paix signés avec l'ex-guérilla des FARC, les forces armées révolutionnaires de Colombie. Bonjour Marc Potvin.
Bonjour.
Est-ce qu'on peut d'ores et déjà entrevoir les effets que cette élection aura sur cet accord de paix durement acquis?
Eh bien, il devrait être remanié puisque c'était l'un des axes majeurs de la campagne d'Iván Duque. Après sa victoire, il n'a pas oublié cette promesse faite aux électeurs. Le président élu a précisé que des corrections seront faites à l'accord de paix signé fin 2016. Il a permis de mettre fin à un demi-siècle d'affrontements avec l'ancienne guérilla marxiste. Selon le président élu, ces corrections auront pour but de placer les victimes au centre du processus pour garantir véritablement justice et réparation des victimes nombreuses, au moins 8 millions entre les morts, les disparus et les déplacés. Le détail des modifications prévues n'est pas connu, mais pendant sa campagne, Iván Duque s'en était pris à certains ex-chefs de la guérilla marxiste. Il avait dit vouloir envoyer en prison ceux qui sont coupables de crimes graves. Iván Duque avait aussi promis de leur interdire de siéger au Parlement. Le parti FARC, issu de l'ex-guérilla, n'est pas resté muet. Depuis hier, il appelle le président élu à faire preuve de bon sens après l'annonce de ces corrections à l'accord. Ce que demande le pays, c'est une paix intégrale qui nous mène vers la réconciliation, affirme la formation. Elle ajoute que contourner cet objectif ne peut être un programme de gouvernement. Le parti FARC, qui ne ferme pas la porte à des discussions avec le nouveau pouvoir, il demande à rencontrer Iván Duque.
Merci Marc Potvin. Rupert Stadler, le président du directoire d'Audi, est en prison depuis ce matin. C'est ce qu'a annoncé un porte-parole de la maison mère d'Audi, Volkswagen en Allemagne. Le parquet de Munich a confirmé cette information et a motivé sa décision d'arrêter Rupert Stadler au regard des risques de voir des preuves disparaître dans le cadre de l'enquête sur le scandale des moteurs diesel truqués. En Espagne, c'est le beau-frère du roi Felipe qui est en prison depuis ce matin. Iñaki Urdangarin avait été condamné la semaine dernière en appel à 5 ans et 10 mois de prison pour détournement de fonds publics, fraude fiscale et trafic d'influence. Il s'est présenté ce matin à la prison de Brieva à Avila, dans le centre de l'Espagne. On en vient à la page philosophie de ce journal. Bonjour Adèle Van Rett.
Bonjour Benoît.
Et merci d'être revenu dans ce studio.
Avec grand plaisir.
Quelques dizaines de minutes après la fin des chemins de la philosophie,
non,
vous
c'est
êtes productrice.
10h à 11h quand même, ça fait une heure que je suis sortie et je reviens toujours avec plaisir pour parler de philosophie.
C'est d'autant plus sympathique. Mais... on va parler de cette épreuve du bac, cette première épreuve du bac, traditionnellement c'est de la philosophie. Alors ce matin, les sujets sont tombés comme chaque année, on va en parler ensemble si vous le voulez bien. La culture nous rend-elle plus humains? Voilà, on prend le premier.
Premier de la série Elle, parce que vous savez, chaque série a des sujets différents. La série Elle a des sujets assez classiques. La culture nous rend-elle plus humains ou peut-on renoncer à la liberté? Ce sont des sujets qui auront tout à fait convenu à des élèves qui ont travaillé leur cours pendant l'année. La culture fait l'objet d'un cours pendant l'année, la liberté aussi. Le piège, toujours, c'est de vouloir recracher son cours sans analyser le sujet. Parce que là, si on analyse vraiment le sujet, la culture nous rend-elle plus humains? Mais il faut voir ce que ça veut dire. Quelle est la question qui nous est posée dans ce sujet? C'est savoir si déjà, est-ce qu'il y a des manières d'être plus ou moins humain? C'est bizarre cette notion d'être plus humain. Est-ce qu'il y a des sous-hommes et des surhommes?
Il y a des degrés dans l'humanité.
Bah
oui,
c'est ça. Donc ça, c'est un présupposé assez étrange. Et est-ce que c'est la culture qui nous ferait accéder à davantage d'humanité? Là, il faut entendre qu'il y a une opposition entre humain et animal. La culture, c'est ce qui nous distingue de l'animal. Alors, est-ce que ça veut dire que la culture nous fait sortir complètement de l'animalité? Pas forcément. Il y a des personnes très cultivées qui se comportent de manière animale. Et nous avons en nous aussi une part d'animalité, qu'elle soit faite d'instinct ou autre. Donc, vous voyez, c'est une manière de creuser les termes et de reformuler la question que pose le sujet. C'est la fameuse problématique qu'on met 10 mois avant de comprendre et d'arriver à formuler. Ça tombe bien, c'est à peu près la durée qu'il faut avant de passer l'épreuve du bac.
Alors, dans les sujets qui nous sont parvenus une heure après le début des épreuves, une erreur s'est glissée dans les premières arrivées. La question du deuxième sujet pour les séries littéraires, c'est peut-on renoncer à la vérité? C'est une question qui est d'autant plus d'actualité.
Vous voyez, j'avais l'erreur. Peut-on renoncer à la vérité? Et ça veut dire que la notion de vérité est présente dans deux séries, parce qu'on l'a aussi en série économique. Je constate quand même que dans les sujets que j'ai sous les yeux, on a la notion de désir, de vérité, de culture, de liberté, d'art. Et la seule mention d'un aspect plus technique, d'ailleurs la technique, c'est dans la série technologique. Et je le regrette. J'aimerais que les séries littéraires puissent travailler sur un sujet dit scientifique, que les séries scientifiques puissent travailler aussi sur un sujet technique, voire plus littéraire. Vous voyez, je trouve qu'on maintient un peu trop une distinction qui devient une opposition entre littéraire, scientifique et technique, alors que j'en appelle de mes voeux, à un décloisonnement de ces disciplines, et surtout en philosophie, le cloisonnement n'a aucun sens.
En même temps, tiens, première série de la série S, premier sujet, le désir est-il la marque de notre imperfection?
C'est un sujet magnifique. Ouais. Je trouve pas facile à comprendre. Intuitivement, la question ne s'adresse pas forcément à celui qui la lit. Le désir est-il la marque de notre imperfection? Là aussi, si on s'y arrête, on voit que le présupposé est magnifique. Ça voudrait dire que l'homme est imparfait parce qu'il désire. Or, d'ailleurs, étymologiquement, le désir, c'est le manque. Le manque de quelque chose. Donc, la personne à qui il manque quelque chose serait peut-être une personne imparfaite, car incomplète. Et si on va encore plus loin, on se dit que cette imperfection serait une chance, car elle est l'occasion du désir, et sans désir, pas d'amour, pas de jouissance. Donc, avec le désir, nous accédons là à une partie de l'humanité qui est bien différente de la culture, mais tout aussi essentielle.
Radel, Benoît, j'ai fait bûcher un petit peu Jack Lang avant qu'il entre dans ce studio. À la question « La culture nous rend-elle plus humains ?» il répond « Non ». Et à la question « Peut-on être insensible à l'art ?» il répond « Oui ».
Est-ce qu'il peut pas développer
c'est un peu court, jeune homme.
Est-ce qu'il peut élaborer?
Le dernier sujet n'est pas facile.
Sur le
désir et l'imperfection.
Il est magnifique, non?
Et au fond, c'est le sujet un peu du... Pardon, je ne veux pas faire le trissotin, mais du banquet de Socrate. C'est l'être humain était formé... était un tout.
C'est le mythe d'Aristophane.
Exactement, et la séparation a créé ce sentiment... Je ne sais pas, d'imperfection, en tout cas, de, de non-accomplissement.
Qui est le moteur du désir.
C'est un des moteurs du désir.
Voilà. Pour aller retrouver sa moitié.
Mais c'est un sujet difficile quand même.
Est-il si difficile ? Ce qui me plaît dans ce sujet, c'est qu'il impose à l'élève d'avoir recours à autre chose que sa connaissance des cours. Et en fait, c'est ça qu'on juge aussi le jour du bac. C'est la capacité à affronter un sujet avec les moyens du bord qui sont imparfaits, mais le sujet nous réconcilie avec cette imperfection.
On ne le dira jamais assez chaque année. La philosophie, ce n'est pas que du bachotage.
Non, et c'est bien pas plus que discipline, ça. C'est aussi du goût pour les questions. Et je crois que les élèves en ont toujours.
Et c'est tout l'intérêt de cette discipline. Ouais. Merci beaucoup, Adèle.
Merci à vous, Benoît, et bravo aux élèves.
Vous êtes professeur de philo
sur France Culture. Ah, j'ai mis une émission de philosophie tous les matins.
Voilà, Adèle Vendrel, Jacques Lang, les présentations sur
ce fait. Sujet. Il y aurait aussi matière à controverse.
Bah, vous reviendrez en parler à mon
sur
micro.
Connaissance,
si vous
culture, réflexion.
Déjà, Jacques Lang va rester pour la deuxième partie de la table. Et puis voilà, l'invitation est prise pour une prochaine émission des Chemins de la philosophie. Merci beaucoup.
Je vous laisse. Merci à vous.
Notre invitée pour terminer ce journal est la directrice de la rédaction du magazine L'Étudiant. On va prendre comme prétexte ce début des épreuves du bac pour faire un point sur la réforme du bac, sur Parcoursup. Marie-Caroline Missire, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes interrogée par Hakim Kasmi.
Effectivement, bonjour Marie-Caroline Missire. Alors, tout d'abord, les chiffres, hein, aujourd'hui, on a pu le constater. Il y a 79% d'une classe d'âge qui arrive au niveau baccalauréat. C'était 63% au début des années 2000. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, finalement, ça devient de plus en plus facile d'accéder et surtout d'avoir le bac ?
Alors, je vais être un petit peu radicale. C'est vrai que cette question de la baisse du niveau scolaire et de la baisse du niveau au bac est récurrente. Et je m'oppose un petit peu à cette vision de notre baccalauréat qui perdrait de sa substance d'année en année. Je parle sous le contrôle d'un ancien ministre de l'Éducation nationale. C'est une vision un petit peu facile. Certes, les chiffres parlent, mais quand on entend les élèves, et c'est notre rôle, nous, à l'étudiant, je vous assure qu'on peut mesurer leur angoisse, leur stress et le rapport qu'ils ont à cet examen où ils considèrent quand même que passer 8 épreuves en une semaine, on vient de passer quelques minutes sur les simples sujets de philo, n'est pas un exercice facile. Donc je crois qu'il faut relativiser cette vision d'un bac qui serait aujourd'hui donné. Effectivement, on a une classe d'âge qui arrive massivement à cet examen, et c'était le souhait qui avait été affiché par les pouvoirs publics à la fin des années 80. On y est arrivé aujourd'hui. On arrive à une deuxième étape, c'est-à-dire changer le contenu du baccalauréat. Est-ce que le niveau sera plus difficile ou pas avec cette réforme qu'on attend pour 2021, hein, c'est-à-dire que les élèves qui sont aujourd'hui en troisième passeront un nouveau bac. C'est cela dont on parle. Alors, est-ce qu'on va arriver à un niveau différent ? Il est trop tôt pour le dire, mais la philosophie du bac, puisqu'on parle de philo aujourd'hui, va, elle, radicalement changer. Il sera allégé, plus que 4 épreuves écrites quand ils en passent en moyenne 8 aujourd'hui. Il y aura une épreuve orale très importante, inspirée de ce qu'on trouve à Sciences Po et de ce qu'on trouve dans le bac italien. Et puis, plus de place au contrôle continu. Voici rapidement esquissé la philosophie de ce nouveau bac.
Alors justement, le nouveau bac, on y arrive, ça va entrer en vigueur pour les secondes dès l'année prochaine. Est-ce qu'au niveau des programmes, pensez-vous qu'on a pelleté un peu trop vite parce que mettre en place des programmes, ça prend beaucoup de temps. Or, ils doivent être mis en place dès la rentrée de septembre pour les classes de seconde.
Alors vous remarquerez que si on compare les deux grandes réformes de cette année, Parcoursup, la réforme de l'entrée dans l'enseignement supérieur, et le bac, l'une a pris le pas sur l'autre. Donc en termes de rapidité d'exécution, je dirais que c'est plutôt Parcoursup qui a été vraiment dans une course de vitesse. Le timing des programmes est assez classique. On a mis en œuvre l'année dernière la réforme du collège avec le même timing, la même avancée dans l'organisation et la production de programmes différents. Donc sur ce point-là, je regarderai plutôt de Parcoursup pour parler de précipitation que du côté de la réforme du lycée.
Alors l'une des nouveautés, vous l'avez dit tout à l'heure, il y aura bien sûr 4 épreuves finales en terminale avec un grand oral inspiré de l'Italie. Mais en seconde, on aura quand même beaucoup de cours à la carte que devront choisir les élèves. Est-ce que vous ne pensez pas que les élèves, entre guillemets, les plus défavorisés, ceux qui n'ont pas des parents professeurs ou CSP+, eh bien, se retrouveront plus en porte-à-faux lorsqu'il faudra choisir le bon bac et surtout pour l'orientation future?
Alors effectivement, le risque de cette réforme, c'est que on a d'un côté la suppression des filières qui aujourd'hui servaient de sélection naturelle. Tous les élèves s'orientaient naturellement vers la filière S parce que c'était la filière la plus ouverte et qui permettait d'atteindre un plus grand nombre de formations à l'issue du bac. Est-ce que cet ensemble de spécialités va finalement naturellement reconstituer une logique de filière, même si celles-ci ont disparu ? C'est une question qu'on peut se poser. Mais effectivement, la lutte contre les inégalités à l'école est une question qu'on n'a pas encore réussi à résoudre avec les politiques publiques éducatives. Dans les éléments de langage du ministre, c'est quand même un élément important qu'il porte notamment pour les classes de CP et ces inégalités au lycée. Je crois que c'est très important de sensibiliser quand même les élèves à un grand nombre de connaissances. Ce qu'a dit la productrice des chemins de la connaissance tout à l'heure est tout à fait juste. Effectivement, il ne faut pas enfermer des scientifiques simplement dans les matières scientifiques, les littéraires simplement dans les matières littéraires. Et il y a quand même un esprit dans cette réforme, c'est-à-dire d'ouvrir les élèves à un plus grand nombre de disciplines, leur faire découvrir par exemple les humanités numériques, ce qui me paraît absolument fondamental, quel que soit le niveau ou le niveau social des enfants.
Alors justement, pour conclure, cette réforme, elle est aussi en lien direct avec Parcoursup. Du coup, est-ce que vous ne craignez pas que là aussi on ait de la sélection, sélection par le bac et sélection ensuite par Parcoursup ? Parce que les deux ont été articulés pour aller ensemble.
Bah, le paradoxe aujourd'hui, c'est que les élèves, certes, passent le bac, mais ils ont surtout eu l'impression d'avoir passé Parcoursup cette année. C'est quand même ça qui a occupé les élèves et les familles, et on le sait bien, nous, journalistes éducation. La sélection, je crois qu'elle ne tait plus son nom aujourd'hui. Parcoursup est une forme d'organisation du flux de ces étudiants que la démographie rend très important et rendra de la même manière très important dans les prochaines années pour leur inscription dans le supérieur. Le paradoxe, c'est qu'effectivement, toute la valeur du baccalauréat a été déportée sur ce système de Parcoursup, comme ça l'était pour APB, admission post-bac, l'année dernière, puisque le fait que les élèves aient leur réponse à leur orientation dans le supérieur avant même de passer les épreuves du bac démonétise de fait cet examen. Et c'est un des gros sujets, et je crois que cette articulation entre les épreuves du bac et le timing de Parcoursup est absolument fondamental pour redonner du sens à l'articulation secondaire et supérieure dans les prochaines années.
Merci beaucoup Marie-Caroline Missière, directrice de la rédaction du magazine L'Étudiant. Merci aussi à Hakim Kasmi. Un mot simplement de la grève à la SNCF. Le taux de participation des cheminots à cette nouvelle journée de grève est encore en baisse à peu près 10%. C'est ce qu'indique ce matin dans un communiqué la direction de la SNCF. 10,8% de grévistes et pas d'incident signalé ce matin pour les futurs bacheliers qui passaient la philosophie. Les nuages se dissipent peu à peu et l'après-midi sera de plus en plus ensoleillé, indique Météo France. Les températures au meilleur de la journée seront comprises entre 17 et 26 degrés jusqu'à 31 degrés autour de la Méditerranée. Midi 56 sur France Culture. Ce journal a été préparé avec Yacine Bouzard. Merci à lui. À 18h, le prochain rendez-vous avec la rédaction, ce sera avec Aurélie Kiffer.